Et c'est le journal de Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la fin du grand débat se sera terminée ce soir. 2 mois et demi à discuter de tout et dans tout le pays. Qu'en attendent maintenant les participants? Retour ce matin dans une commune bretonne qui a organisé pas moins de 5 débats avec ses habitants. Pas de panique, mais une inquiétude à l'arrivée prochaine de 2 nappes de fioul sur les côtes françaises. L'inquiétude notamment des ostréiculteurs, on les entendra. Dans l'actualité également, un véritable carnage en Nouvelle-Zélande avec des fusillades dans 2 mosquées de la ville de Christchurch. On parle à ce stade de 40 morts. Les lycéens par milliers dans les rues du monde entier. Journée mondiale de grève scolaire aujourd'hui pour défendre la planète. Dans ce journal, on vous racontera également l'histoire de ce couple de lesbiennes victimes de discrimination dans un hôpital de Perpignan. Et puis nous irons enfin porte de Versailles au salon de la gonflette.
Et l'écrivaine Yannick Lahin, c'est la première titulaire de cette nouvelle chaire annuelle Monde francophone au Collège de France. Elle est dans 20 minutes à 7h50, l'invité d'Ali Badou.
France Inter.
Le grand débat, Sébastien, prend fin aujourd'hui, mais les Français en redemandent.
La première étape de cette consultation nationale s'achève en effet après 2 mois et demi de réunion. Une démarche à laquelle les Français semblent avoir pris goût. Plus de 10 000 événements organisés dans tout le pays. Ce matin, nous vous proposons de revenir dans l'une des communes les plus mobilisées. La ville bretonne de Saint-Briac-sur-Mer, 2 000 habitants près de Saint-Malo. Le maire a été l'un des premiers à lancer le débat dès la mi-janvier. 3 réunions étaient prévues, mais devant le succès, il en a finalement organisé 5. Le grand débat donc passionné les habitants de Saint-Briac, enfin surtout les plus âgés. Le reportage de Rémi Brancato.
150 à 200 personnes, 2 heures de réunion chaque jeudi à Saint-Briac. Il a fallu trouver une salle plus grande dès le deuxième débat et en organiser 5 en tout pour répondre à la demande.
J'ai maintenant 68 ans, c'est la première fois que je vois ça.
Une bonne surprise donc et des leçons pour les élus comme Alain Rau, conseiller municipal.
Je n'imaginais pas certaines situations. Le fossé qu'il y a entre les plus démunis et les gens qui n'ont pas besoin de compter, c'était flagrant.
Alors au bar tabac du village, on fait le bilan. Les participants ont réclamé plus de justice fiscale, des moyens pour l'éducation, mais ils ont aussi créé des liens. Chantal de Bureau, retraitée, n'a raté aucun débat.
Après chaque réunion, il y avait la possibilité de rester pour prendre un verre. Ça nous a permis d'aller vers les gens qu'on ne connaissait pas.
Chacun vient, parle, c'est une thérapie de groupe.
Mais pour Pierre-Yves Guillermou, menuisier, gilet jaune, il faut dépasser le simple déballage.
Il faudrait, à mon avis, continuer ce type de réunion, que ce soit mensuel, pourquoi pas passer à des formats plus petits qui fassent de réelles propositions.
Le maire est prêt à organiser un grand débat tous les ans, dit-il, mais attention, pour Roland Bideau, retraité, il y a un bémol.
C'était une joyeuse maison de retraite. Les quadras, voire les quinquas, étaient quasiment absents. C'est une parfaite démonstration de la carence de citoyenneté dans ce pays aujourd'hui.
Alors il propose qu'à l'avenir, chaque participant tente de convaincre un jeune de se déplacer.
Emmanuel Macron, lui, n'en finit pas de finir le grand débat. Le président de la République va échanger lundi prochain, 18 mars, avec plus de 60 personnalités de la vie des idées, parmi lesquelles Benjamin Stora, Sylviane Agacinski ou encore Marcel Gaucher. C'est Guillaume Erner, le présentateur de la matinale de France Culture, qui animera ce rendez-vous à l'Élysée. On vous en parle depuis ce matin. La terreur a donc frappé de plein fouet la Nouvelle-Zélande. Une fusillade qui a éclaté cette nuit dans 2 mosquées de la ville de Christchurch. C'est au sud du pays, alors que les fidèles, très nombreux, étaient en pleine prière. Premier bilan de la police ce matin, 40 morts, essentiellement des migrants, probablement des réfugiés tunisiens. Le tireur est un Australien, un terroriste extrémiste de droite et violent, selon la première ministre de Nouvelle-Zélande.
Il est 7h34, Sébastien. Ce n'est pas une, mais 2 nappes de fioul qui menacent désormais les côtes atlantiques françaises.
2 taches de plusieurs kilomètres de long, rien à voir toutefois, il faut le répéter, avec la catastrophe de l'Erika. Ces 2 nappes dérivent plus lentement que prévu, avec une moyenne de 35 km par jour. Cela devrait laisser du temps aux 4 navires anti-pollution engagés dans l'opération. Malgré tout, les professionnels de la mer s'inquiètent déjà des conséquences, et en premier lieu, les ostréiculteurs, habitués des pollutions maritimes, mais exaspérés à l'idée que leurs huîtres puissent être interdites à la vente, comme cette ostréicultrice de Saint-Martin-de-Ré, Sophie Suri, on l'écoute.
Il y en a marre parce qu'effectivement, on est impacté par les pollutions qui viennent de la terre, on est impacté par les pollutions qui viennent de la mer et nous, on se trouve au milieu et on subit. Quand on s'est levé avec mon mari, on a décidé de sauvegarder, entre guillemets, un maximum d'huîtres, c'est-à-dire les mettre dans nos bassins et dans nos marais, dans nos clairs, en espérant que les coefficients des grandes marées ne fassent pas déborder la mer la semaine prochaine. Toutes les huîtres qui auront été en contact avec la pollution, on s'achemine effectivement vers une interdiction de commercialisation de nos produits. Malheureusement, on a l'impression de revivre des situations, comme me dit mon mari, me dit, en fait, on sait faire, hein, on sait faire, on sait mettre à l'abri, on sait réagir, mais bon, il y en a marre.
Sophie Suri, micro de Cédric Hermel de France Bleu, La Rochelle, pollution, réchauffement climatique, c'est pour défendre la planète que des centaines de milliers de jeunes lycéens à travers le monde s'apprêtent à descendre dans la rue. Aujourd'hui, une grève mondiale pour l'avenir prévue dans 1769 endroits et 112 pays exactement. L'analyse des boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines va commencer aujourd'hui dans les bureaux des experts français du BEA. En attendant les résultats, Boeing a décidé hier de suspendre les livraisons de tous ces Boeing 737 MAX. Direction Perpignan maintenant avec l'histoire de cette mère lesbienne interdite d'accompagner son fils aux urgences, interdite d'accès au prétexte qu'elle n'était pas la mère biologique. Avec sa compagne, elles ont décidé de déposer une main courante pour discrimination. Les précisions de Delphine Evenou.
Dimanche matin, Corinne et sa compagne conduisent leur petit garçon de 3 ans aux urgences pédiatriques pour une inflammation. Les deux femmes remplissent le formulaire d'accueil. Corinne demande si l'hôpital veut voir son attestation d'autorité parentale. Pas besoin, la rassure-t-on. La famille patiente quelques minutes, puis on vient chercher le garçon pour l'emmener en salle d'examen.
L'infirmière a dit devant nous, seule la vraie mère rentre. Je suis restée scotchée. On n'a jamais été confronté à ça.
Selon la jeune femme, deux hommes en blouse blanche s'assurent qu'elle ne suivent pas sa compagne et son fils. Corinne attend la fin de la consultation, puis va à la gendarmerie dénoncer une atteinte à ses droits de parent, d'autant que l'épisode a aussi marqué son enfant.
Mon fils m'a regardé et bon, il a quand même entendu qu'il y en a une qui était une vraie maman et pas l'autre, quoi. Ce matin, je lui ai interdit de faire quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse parce que c'était dangereux et il m'a répondu, mais t'es pas ma maman.
L'avocate du couple a demandé à l'hôpital de présenter ses excuses. En vain, elle leur a donc envoyé hier un recours gracieux. Corinne et sa compagne ne veulent pas laisser passer.
Moi, je respecte les lois. Il y a une loi par rapport à mon autorité parentale aussi. J'aimerais que le centre hospitalier de Perpignan, parce que moi, respecte les lois. Je suis parent, qu'il le veuille ou pas, je suis parent de mon fils.
L'hôpital de Perpignan n'a pas répondu à nos sollicitations.
La césarienne est 50 fois plus mortelle pour les femmes africaines que dans les pays riches. Conclusion d'une enquête à lire dans la revue médicale de Lancet Global Health.
Il est 7h38. Merci d'écouter France Inter. La suite du journal, Sébastien Legénie.
Aux États-Unis, c'est un nouveau camouflet pour Donald Trump. Son urgence nationale et son projet de mur à la frontière mexicaine ont été rejetés hier soir par le Sénat. Pourtant, à majorité républicaine, le choix des sénateurs est évidemment symbolique, car le président américain peut contrecarrer leur vote avec son droit de veto et il a bien l'intention de le faire. Il a tweeté hier ces quatre lettres VETO. Petit soulagement, en revanche, pour Theresa May, sa motion a été adoptée hier par les députés britanniques. Le Parlement a voté massivement pour un report du Brexit, jusqu'ici programmé le 29 mars, mais à la condition d'adopter le texte de la Première ministre qu'elle soumettra pour la troisième fois la semaine prochaine au Parlement. Bref, un répit, mais un répit de courte durée, car hier, au-delà de ce vote de report attendu, ministres et députés britanniques se sont divisés et contredit comme jamais à la tribune. Plus les jours passent, plus le pays s'enfonce dans la crise politique. Antoine Gignot.
Même si Theresa May a les deux pieds sur le frein, le Brexit ressemble de plus en plus à un bus lancé à pleine vitesse que plus personne ne contrôle. Chez les conservateurs, la majorité des députés ont voté hier soir contre les consignes données par le gouvernement. Gouvernement lui-même totalement divisé et en déroute pendant de longues minutes à la tribune. Stephen Barclay, le ministre du Brexit, a plaidé pour un report de la sortie de l'Union européenne. Il a appelé ses collègues à agir dans l'intérêt national avec une prolongation réaliste Et puis il s'est assis et 3 minutes plus tard, il est allé voter contre ce report qu'il venait lui-même de réclamer. Conséquence, il pourrait, dans les jours qui viennent, démissionner comme ses deux prédécesseurs l'ont fait avant lui. À gauche, la situation n'est pas plus brillante avec un départ en cascade de députés qui reprochent au Parti travailliste de ne pas soutenir clairement l'idée d'un deuxième référendum. Les jours passent et le Brexit, comme la révolution, dévore ses enfants. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Voilà, tout cela doit paraître bien lointain pour les 3 cosmonautes russes et américains arrivés à bon port hier dans la station spatiale internationale. Leur voyage à bord de Soyouz, la fusée Soyouz, s'est bien passé. Pas d'explosion cette fois-ci.
Allez, pour terminer, quel narcissisme, Sébastien. On parle gros biceps et plaquettes de chocolat.
Je suis sûr que ça va vous intéresser. Le salon Body Fitness ouvre aujourd'hui porte de Versailles à Paris avec de véritables stars de la muscu, mais aussi du web, des youtubeurs ou des influenceurs comme on les appelle, qui rassemblent des millions d'abonnés. Mais attention, certains d'entre eux ne mangent pas que des légumes. Reportage Thibaut Lefebvre.
Il s'appelle Nassim Saïli, Sissi Mua ou Thibaut InShape.
De Nassim Saïli, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Et ils parlent à leurs abonnés face caméra dans des vidéos montées à un rythme effréné pour proposer des conseils nutritionnels ou des méthodes d'entraînement.
Voici quelques astuces pour avoir des pecs énormes.
Et parmi ses abonnés aux pectoraux impressionnants, Outman Badissi, il a 26 ans, il s'entraîne quotidiennement en salle de musculation et il passe au moins une heure par jour sur des chaînes fitness sur YouTube.
Ça a complètement été professionnalisé ces dernières années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les YouTubeurs travaillent avec des photographes et ils ont aussi bien évidemment des personnes qui les aident à gérer leurs entreprises.
Des entreprises qu'Outman a côtoyées de près. Pendant 2 ans, il a travaillé avec des influenceurs pour vendre des entraînements en ligne.
Certains youtubeurs utilisent des produits dopants. C'est quelque chose qui est illégal et interdit. Le danger pour l'audience, c'est d'avoir recours à cette chimie sans les connaissances nécessaires. C'est-à-dire que la plupart des influenceurs qui ont recours à des produits dopants, ils sont suivis par des médecins, sauf qu'une personne lambda pourrait risquer même sa vie.
Quelques influenceurs donc, et certains de leurs abonnés qui utilisent dans la grande majorité des cas des stéroïdes anabolisants en injection.
À Thibaut Lefebvre, et puis je vous rappelle pour terminer l'information principale de ce matin, 7 fusillades dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande, le premier bilan fait état de 40 morts, chiffre annoncé par la Première Ministre. On y reviendra bien sûr dans le journal de 8h.
Merci Sébastien Legénie.